Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission d'Histoire et de Contes. Jean-Claude Rouchouz, notre bienfaiteur des ondes, nous propose de nouveau trois de ses textes. Le premier, un mystérieux patron, le deuxième, Gaïa, et le troisième, dialogue avec le Nostoc du cul du cerf. Mais cette fois-ci, nous ne vous laisserons pas écouter sans effort. Trois énigmes vous seront proposées. Si vous y répondez, Jean-Claude vous offrira quelques extraits de ses textes. Alors, soyez à l'écoute.
Un mystérieux patron. Mes 15 000 employés, je les surveillais de près. Tous étaient câblés entre eux et à moi par mon réseau. L'information circulait continuellement. J'analysais en temps réel leur potentiel et leurs résultats. Tout était stocké dans ma mémoire. Quelle était la longueur de mon réseau de câblage? 5 000 km, 10 000, 100 000. Je ne le savais pas moi-même. En surface, mon entreprise dépassait 200 hectares et 30 mètres de hauteur. En profondeur, je ne descendais guère à plus de 4 mètres. Mes besoins en eau étaient constants, mais l'eau ne manquait guère. Mon souci, c'était les sucres. Aussi, je contrôlais régulièrement chacun de mes employés pour qu'ils m'en fournissent la quantité suffisante à mon développement. Après analyse par mes capteurs, mes messages les faisaient travailler au maximum de leur capacité. Parfois trop. Stressés, ils tombaient malades. Mais ils fabriquaient alors certaines vitamines qui m'étaient particulièrement utiles. Alors j'exploitais leur maladie, le pourridier, et l'aggravais sans scrupule, car je n'en ai jamais eu aucun. Presque toujours, elle était longue et j'en profitais largement. Finalement, il mourait, mais avait eu le temps d'avoir des descendants. Je devais simplement veiller à ce que le nombre de descendants soit supérieur au nombre de mourants. Je souhaitais en effet m'étendre. De tous les côtés, je pouvais le faire et étirer mes câbles pour recruter quelques nouveaux employés, m'infiltrer en eux, contrôler leur organisation propre et les mettre à mon service. Mon système de contrôle était parfaitement au point et ils ne percevaient pas que je les tenais sous ma coupe. Ils se croyaient autonomes, fiers de leurs milliers de capteurs photosynthétiques, ivres de lumière. Mais mon réseau filamenteux parasitaire était en eux, prélevant à mon profit leurs sucres et leurs vitamines. Habituellement, je restais tapis dans mon univers souterrain. Mais cependant, une fois par an, à l'automne, je dressais des touffes de têtes multiples à lamelles rayonnantes en plusieurs points de mon territoire, profitant des cadavres de mes employés, car c'était sur ces cadavres que mes têtes trouvaient les meilleures sources de nourriture. Artiste à mes heures, j'étais particulièrement fier de la couleur de miel de celles-ci et de leur élégance. De ces têtes partaient des milliards d'émissaires microscopiques que le vent pouvait porter au loin, car mon but était de coloniser de nouveaux territoires. En effet, à ma périphérie, de futurs employés étaient réellement autonomes et je comptais bien les assujettir. Sucre, vitamines et eau n'étaient que le nécessaire pour atteindre mon but ultime, qui était la puissance. Régner sur 30 000 employés et coloniser 600 hectares, accédant alors au stade de plus grand être vivant sur Terre, car j'étais d'un seul tenant. Chaque mètre cube de mon espace, je l'occupais de manière certes invisible, mais cependant bien réelle. L'invisibilité était ma force vis-à-vis de ceux que j'exploitais sans vergogne, mais aussi pour me dissimuler face à d'éventuels ennemis. Par-ci, par-là, quelques individualités parvenaient à échapper à mon contrôle. Des rebelles, Leur santé éclatante et je ne sais quelle force étrange faisait qu'ils résistaient à la pénétration de mes câbles et n'obéissaient plus à mes ordres. Je les contournais, j'enveloppais leurs pieds. Ils gardaient un petit espace de liberté, mais ne me gênaient guère. Je tolérais leur rareté et avais une secrète admiration pour leur capacité à me résister. Heureusement, ils étaient rares et je parasitais bel et bien la masse amorphe de leurs semblables. Je les exploitais vivants et je les exploitais morts. Quelques-uns très rares, les mystiques, avaient conscience de mon existence. Ils me vénéraient et me prenaient pour un dieu dont l'étendue et la puissance leur paraissaient infinies. Mais je n'étais que leur mystérieux patron. La réalité ne dépassait pas leur fiction.
Alors, messieurs, dames, à votre avis, qui est ce mystérieux patron ?
Gaïa. C'est un fait. J'ai un sérieux problème de peau. Elle se crevasse, part en morceaux. Ceux-ci se heurtent, se disloquent, se chevauchent. Leurs franges se plissent, déformées comme les vagues d'une mer démontée. Ce n'est pourtant pas dû à un coup de soleil. Le soleil, je m'en tiens soigneusement éloigné. Non, c'est à cause de cette satanée fièvre toujours trop forte. Une chaleur monte des profondeurs et met en mouvement mes fluides internes. Ils sortent par des points chauds, perçant ma peau, en créant d'étranges boursouflures aux innombrables scories, embrasant mes horizons. Alors qu'habituellement un manteau est sur la peau pour vous protéger du froid, chez moi c'est l'inverse. Ma peau recouvre mon manteau. À celui-ci, je donne d'amples mouvements circulaires, semblables aux grands courants océaniques, mais beaucoup plus lents. En raison de cette fièvre, je n'arrête pas de frissonner, ce qui crée des secousses qui peuvent me traverser de part en part. Il y a comme des tremblements venant d'un cœur inconnu ou d'une graine centrale en germination. Cette fièvre, je l'ai depuis si longtemps que je m'y suis presque habitué. Je dis presque, car ce qui m'inquiète, c'est qu'elle menace mon cerveau. Mon cerveau est dans ma peau. Et ce cerveau, je l'admire pour son extraordinaire complexité, l'extrême variété de ses composants, si nombreux que je ne les ai pas tous inventoriés. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, faisant tout pour le maintenir stable. Sans lui, en effet, je ne suis plus qu'une masse aveugle se propulsant dans l'espace. Tout au long de ma longue existence, je l'ai enrichi de nouveaux composants, en commençant par les plus simples, les bactéries. En les associant entre elles, j'ai créé des êtres symbiotiques, de plus en plus complexes, interconnectés entre eux par des voies gaïennes, multiples, alimentaires, respiratoires, excrétrices, reproductrices, tous communiquant avec tous, tous plus ou moins mobiles selon leur période de vie. Ensemble, ces êtres symbiotiques forment ce cerveau sphérique et pelliculaire où siège mon esprit. Heureusement, je suis incapable de dire si cet esprit peut voyager dans toute l'épaisseur de ma peau, peut-être même dans ce manteau sous-jacent. Par contre, je sais que mon cerveau a élaboré une enveloppe gazeuse et qu'il assure sa constance. Mon cerveau a besoin de cette stabilité pour se maintenir en vie. Trop d'oxygène et il peut brûler. Trop peu et il suffoque. Je maintiens aussi constante la composition en sel de ses fluides. Cette fièvre, c'est un souci, d'autant que j'ai l'esprit perfectionniste. Mes composants cérébraux, je les sélectionne à tour de bras, éliminant sans pitié aucune les mal foutus, les éclopés, les claudiquants, les bancals, ceux qui n'ont pas su se trouver leur niche. De temps en temps, je leur envoie des virus pour les tester. Les virus sont la police interne de ma pellicule de cerveau. Ayant un cerveau, je me fixe des buts. L'esprit ne peut fonctionner sans but. Les buts émergent de l'esprit aussi inéluctablement que le papillon sort de son cocon ou que le fleuve se jette dans l'océan. Je m'aime bien et mon ego étant surdimensionné, mon premier but est de me conserver tel quel. Pour cela, j'ai mis en place une cybernétique très élaborée, farcie de rétroactions positives et négatives, de téléonomie, d'homéostasie et d'homéothélie, tant et si bien que l'ordre gaïen règne. Mon second but est de rompre ma solitude. Je n'ai ni compagne, ni compagnon, ni ami. Rien. Le néant. Personne à qui parler d'égal à égal, alors que en moi, tous communiquent avec tous. Aussi, j'ai décidé de confier à l'un des éléments de mon cerveau, l'élément sapiens, la mission de me trouver une compagne ou un compagnon. Ce sapiens, évidemment intelligent, car composant de mon hyperconscience, je lui ai fait inventer une technologie spatiale. Il a placé un message dans l'un de ses vaisseaux, signalant ma présence et ma position. Il a mis aussi sa propre image, car il a comme moi un ego surdimensionné. La modestie n'est pas son fort. Quelquefois, vos créations vous ressemblent. Le vaisseau et l'image sont partis dans l'espace. Des milliards de kilomètres ont été parcourus, et croyez-moi, aucune réponse, rien. Toujours le néant et cette noire solitude. Aucune compagne ne m'a envoyé de signe de vie. Je lui donne l'ordre de creuser le problème. Il creuse, tant et si bien qu'il finit par mettre en évidence ce qu'il nomme des extra-planètes. Plusieurs centaines, paraît-il, il y en aurait des milliards dans l'univers, certaines ayant comme moi un cerveau pelliculaire, mais toujours aucune réponse de leur part. Pour le moment, je maintiens à l'élément sapiens sa mission et il garde ma confiance. Disons que je lui accorde un sursis de quelques milliers d'années, mais passé ce délai, je le vire et je le remplace par l'élément Pompaniscus, ou Papio-Papio, ou Castor-Fiber, ou Formica-Rufa, qui ne demande qu'à lui succéder. Aucun de mes éléments à lui seul ne m'est vital. Surtout pas le sapiens, qui ne se gêne d'ailleurs pas lui-même pour détruire ses concurrents comme Canis Lupus. À bon entendeur, salut.
Pensez-vous reconnaître Gaïa ?
Dialogue avec le nostoc du cul du cerf. Je marche tranquillement sur ce chemin du cul du cerf entre les villages dromois, de Poyol et Lucandivois. Mon idée est tout simplement de profiter du beau temps et du paysage, éventuellement de cueillir quelques fleurs pour mon herbier. La veille, il a plu et le sommet du cul du cerf est humide. Le ciel est bleu, un léger vent anime les buis et les genévriers, tout est calme. Soudain, je sursaute car quelqu'un m'interpelle. « Aïe, mais tu me fais mal! Enlève donc ton pied! Arrête de m'écraser !» Interloqué, je fais un écart et je regarde où j'ai mis mon pied. Mais je ne vois rien. Il n'y a personne. Pas le moindre campagnol, le moindre escargot, le moindre scarabée. J'ai beau regarder, rien ne bouge. Je dis, qui m'appelle? Qui est là? Quelque chose me répond, imbécile. Regarde un peu mieux. C'est moi, Nostoc. Ah, c'est toi, crachat de lune. Je ne t'avais pas vu. Tu étais caché parmi les mousses. Arrête de m'appeler crachat de lune. J'ai horreur que l'on me nomme ainsi. C'est vrai, je peux avoir la couleur de la lune, mais crachat, non! D'ailleurs, la lune n'a jamais émis le moindre crachat. Excuse-moi, mais avec ta couleur vert bleuâtre, tu n'es pas facile à repérer. Il s'exclame. C'est toujours pareil, j'en ai marre qu'on ne me voit jamais, on m'écrase sans vergogne, et pourtant je suis utile. D'où vient ton oxygène? Tu peux me le dire?
Écoute, je ne sais pas d'où vient mon oxygène. Peut-être peux-tu éclairer ma lanterne.
C'est vrai, dit-il. Tu es trop jeune. Mais apprends que dans des temps très reculés, nous, les Nostoc et apparentés, nous étions dans les océans par milliards de milliards. Nous nous empilions dans nos tours stromatolithiques. Quelques-uns d'entre nous se déplaçaient sans hâte, d'autres se laissaient emporter par les courants, ne pouvant résister à leur impétuosité. Au-dessus de nos océans régnait une atmosphère zébrée d'éclairs que nous enrichissions en oxygène. Ton oxygène ! C'est nous, les Nostoc et autres bactéries bleues, qui avons créé une atmosphère terrestre vivable pour vous qui avez les pieds sur Terre. Nous étions partout où la lumière du soleil traversait l'océan.
Je lui dis, c'est étonnant. Vous deviez avoir une sexualité exubérante pour coloniser tous les océans.
D'un ton offusqué, il me répond. Surtout ne me parle pas de sexualité. J'ai horreur de la sexualité et de ces milliards d'accouplements. Je me reproduis tout seul et ça me convient. Comme cela, j'échappe aux inévitables scènes de ménage et aux coûteuses parades de séduction.
Quand je pense qu'un mâle, s'il existait, pourrait venir me lécher mon tal et me sucer mes trichomes, les quelques poils que j'ai sur mon corps en frémissent de dégoût.
Je lui dis, tu dois avoir vu les premiers poissons. C'est vrai, me dit-il, d'un air flatté. C'était il y a bien longtemps. Les premiers poissons sans mâchoire glissaient au-dessus de moi. Puis sont venus les requins et les raies. Il y en a un qui me faisait bien rire. Le Calorhynchus, avec son nez éléphantesque et ses claspers pelviens.
Mais quel spectacle que celui des requins pèlerins et des raies mantas engloutissant le plancton. Tu dois te souvenir de la mort des ammonites et des dinosaures.
Bien sûr que je m'en souviens. J'ai eu beaucoup de chance. Il y a eu une gigantesque vague de plusieurs centaines de mètres de hauteur qui m'a projeté très loin sur le sommet d'une montagne. Le ciel s'est obscurci pendant plusieurs centaines d'années. Les océans sont devenus acides. Des milliards d'êtres sont morts. Des milliers d'espèces se sont éteintes. Par chance, sur ma montagne, dans ma flaque d'eau, j'avais un peu de lumière et j'ai survécu. À quelque chose, malheur est bon, je découvris le ciel étoilé et ses constellations, la profondeur de l'univers, moi qui ne connaissais que celle de l'océan. Chaque jour, je découvrais, car la faune des continents émergés m'était inconnue. D'étranges mille pattes, puis des six pattes, puis des quatre pattes me marchaient dessus. Un jour, je vis avec stupeur un poisson sautillant à mes côtés, une future grenouille. Puis un petit être poilu avec quatre pattes et une queue, une future musaraigne. Je lui demande, et comment tu nous as découverts, nous les hommes?
Oh, vous êtes des genoux, vous n'avez que quelques millions d'années. Vous êtes des binaires qui d'ailleurs ont perdu leurs 10 moignons il y a peu.
Comment cela? Je lui demande interloqué.
Pourquoi des binaires ayant perdu des moignons?
Ben oui, Dinostoc, regarde-toi. Tu es un être double, avec 10 moignons, 5 par unité. Mais il y a 30 000 ans environ, tu as perdu tes moignons.
Je dois dire que j'admire maintenant le dessin géométrique de chacune de tes unités. Il est très élégant.
Je réfléchissais. Et tout à coup, la solution m'a paru.
Nostoc avait la vue courte. Il ne voyait que sur 5 cm de profondeur. Donc, pour lui, un homme se réduisait à ses semelles, et comme j'avais des semelles dissimulant mes orteils, j'étais un être binaire, n'ayant que 2 semelles de chaussures de randonnée au dessin géométrique.
Je lui dis, Nostoc, tu te trompes. J'ai toujours mes moignons, et je vais te le prouver.
J'enlève mes chaussures, puis mes chaussettes, et je lui marche dessus en écartant bien mes orteils.
Ça alors, me dit-il, mais tu as raison. Tu as toujours tes moignons.
Incroyable, tu as inventé le casse-moignon. Je vais finir par croire que vous, les hommes, vous êtes devenus les êtres les plus intelligents parmi tous ceux de la Terre.
Je lui dis en me rengorgeant, « Tu as raison, nous le sommes, nous les hommes. » Je quittai un ostoc médusé, me promettant de revenir le voir avec mes futures chaussures aux splendides dessins géométriques, spécial marathon de montagne, pour lui en mettre plein la vue, même s'il la courte. J'ai toujours adoré éblouir les crachats de lune. Les nostocs. C'est mon côté trop humain. Disons mon côté moignon.
Savez-vous qui est ce fameux Nostoc du cul du cerf? Si vous avez les réponses, contactez-nous au 09 52 368 531 ou bien par mail à l'adresse suivante contact@rdwa.fr. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à très bientôt sur RDWA bien sûr.